France Inter, franceinter.com.
Une affaire qui a passionné les Français il y a 200 ans, donc Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. Citoyen, j'apprends qu'il a été trouvé dans votre département un jeune homme qui ne sait que pousser des cris confus et ne parle aucune langue. Je vous prie de me l'adresser sans délai. Lucien Bonaparte, ministre de l'Intérieur. ans d'histoire. Complètement nu, hirsute, se nourrissant de glands et se déplaçant comme un animal, c'était un enfant d'une dizaine d'années qui errait depuis longtemps dans les forêts de l'Aveyron lorsque le 8 janvier 1800, il était débusqué par des chasseurs près du village de Saint-Cernin. Comme il était incapable de s'exprimer autrement que par des cris inarticulés, on ne savait pas d'où il venait, ni où, ni quand, ni pourquoi il avait été abandonné. Personne d'ailleurs ne s'y serait intéressé si à Paris, l'annonce de la capture de cet enfant sauvage n'avait éveillé la curiosité du ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, et de quelques savants comme le précurseur de la rééducation des enfants handicapés, un médecin de 26 ans, Jean-Marc Gaspard Itard.
Canton de Saint-Cernin. Un enfant de 11 ou 12 ans, entièrement nu, quasiment sourd et muet, cherchant des glands et des racines dont il fait sa nourriture, a été rencontré dans les bois de cônes par trois chasseurs qui s'en sont saisis au moment où il grimpait sur un arbre pour se soustraire à leur poursuite. Conduit dans un hameau du voisinage. Si je pouvais faire venir cet enfant à Paris, il me serait possible, en l'examinant, de déterminer enfin quels sont le degré d'intelligence et la nature des idées d'un adolescent, privé dès son enfance de toute éducation pour avoir vécu entièrement séparé des individus de son espèce.
Anne Kaineg, bonjour.
Bonjour.
C'était François Truffaut, à la fois acteur et réalisateur d'un film dont on a beaucoup parlé il y a une trentaine d'années et dont on vient d'entendre un extrait, L'enfant sauvage ou l'histoire d'un adolescent découvert il y a plus de 200 ans dans la forêt, dans une forêt de l'Aveyron, et alors qui est un des personnages aussi de votre roman historique qui s'appelle Céleste ou les mystères de l'an 9. Céleste qui, en fait, dans votre livre, était chargée justement de garder cet enfant dont l'histoire a vraiment marqué les Français de l'époque. Ils étaient passionnés par la découverte de cet enfant, alors que des enfants abandonnés, des enfants sauvages, comme on les appelait, il y en avait pas mal à l'époque.
Il y en avait énormément. Puisque on en dénombre à peu près en 1785 environ 40 000 déjà, et que la période révolutionnaire va accentuer ce chiffre considérablement. Les enfants vont être abandonnés pour diverses raisons, principalement évidemment pour des raisons de misère. Il y a également des enfants illégitimes, des enfants qui présentent des tares, qui ont des handicaps divers et variés. Et la période extrêmement troublée de l'époque, on passe de 40 000 à plus de 60 000 en 1800, ce qui est considérable. Et on pense aussi que les chiffres qu'on a aujourd'hui sont peut-être en deçà de la réalité.
La misère, je suppose aussi des enfants illégitimes dont on veut cacher la naissance, des enfants handicapés dont on ne veut pas se charger. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraîtrait choquant. Ça peut arriver. On verra d'ailleurs qu'il y a encore des cas, sinon en France, du moins à l'étranger. Mais là, à l'époque, il y en avait beaucoup. Alors celui-là, il va intéresser les gens surtout parce qu'il va être amené à Paris, il va être examiné par toutes les sociétés savantes de l'époque. Rappelez peut-être dans quelles circonstances on l'a découvert, Anne Kaineg.
Alors la toute première fois qu'il a été aperçu, c'était dans le bois de la Cône, qu'on pourrait situer aujourd'hui à peu près la partie orientale du département du Tarn. Et c'est un enfant donc, qui était nu, qui fuyait à l'approche des hommes. Il est donc examiné par des gens qui le guettent dans la campagne, qui n'arrivent pas à l'approcher. Finalement, ils arrivent à le capturer une première fois, donc en 1797, mais il s'échappe en chemin, donc on n'a pas de résultat cette fois-là. Il est aperçu une deuxième fois en 1798, à peu près au même endroit, où là, il est conduit au hameau voisin. Il s'échappe au bout d'une semaine, je crois. Même chose, donc il continue de s'échapper. Et ce n'est qu'en 1800, donc par un hiver très rigoureux, c'est au tout début de l'année, en janvier 1800, Hiver extrêmement dur, un des plus durs de cette époque, où on le découvre de nuit. Il est tout seul, il erre dans le jardin d'un habitant d'un hameau. Et là, il n'oppose pas de résistance, donc on le conduit aussitôt à l'hospice le plus proche, qui est à Sainte-Afrique, et où il va rester quelques temps. Ensuite, il va rester quelques semaines. Ensuite, il est conduit à l'hospice de Rodez.
Il y a un abbé là, qui s'occupe beaucoup de lui. Hein.
Absolument. Là, il est un peu pris en charge par l'abbé Bonnataire, qui est un naturaliste éminent de l'époque, et qui est très intrigué, qui est le premier en fait à s'intéresser au cas tout à fait extravagant de cet enfant. Et c'est lui qui, le premier, va faire un descriptif précis et scientifique de cet enfant. Il va examiner sa taille, son poids. Il va estimer approximativement que cet enfant est âgé de 10 à 12 ans, en examinant aussi sa dentition, etc. Et il fait un descriptif. On s'aperçoit que c'est un enfant qui ne parle pas, qui n'a aucun langage articulé. Bon, il a des cordes vocales, donc il crie. Alors, il mord tous les gens qui l'approchent, il griffe. Et ce qui est très très étonnant, c'est qu'il ne manifeste aucune émotion à quoi que ce soit. Il a une fixité de regard, il est incapable de fixer son attention sur quoi que ce soit. Il n'a pas d'émotion et ce qui est très très curieux, c'est qu'il ne sourit pas, il ne pleure pas. Naturellement, il ne rit pas, si ce n'est une sorte de son guttural. Il aime beaucoup les flammes, il adore courir nu dans la neige, il adore la pluie. En fait, il comporte toutes les caractéristiques d'un animal. Oui. Voilà, il lappe, il ne boit pas, il lappe, etc.
Comment ça se fait qu'il soit envoyé de Rodez, d'abord de Saint-Cernin à Rodez, à Sainte-Afrique, puis à Sainte-Afrique à Rodez, puis de Rodez à Paris. On a vu que le ministre de l'Intérieur, qui était le frère de
Lucien Bonaparte,
de Bonaparte qui n'est pas encore Napoléon, on est à la fin du consulat, donc fait appel à lui. Et on le fait venir donc à ce moment-là à la capitale.
Voilà, parce qu'à l'époque, on est très très intrigué par la frontière entre l'animalité et l'humanité. Et donc, comme vous l'avez dit, le ministre, avant de cette découverte, il y avait à l'époque une société de savants qui était tenue principalement par le docteur Pinel, qui était un illustre aliéniste, et qui se dit, voilà, ce cas m'intéresse beaucoup, donc il faut absolument que je l'examine.
Une société de savants qui va être chargée d'examiner, justement, il y a le docteur Pinel, il y a aussi un homme dont on va beaucoup parler, parce qu'il est très important, qui est un médecin aussi, Jean-Marc Gaspard Itard, et alors, donc, ils veulent voir cet enfant sauvage arriver à Paris le 6 août 1800 et accueilli par une foule de curieux.
Professeur Pinel, docteur Itard, le sauvage est sur le point d'arriver.
Allons voir.
Ne soyez pas nerveux. Vous êtes content, hein?
Il a mordu, docteur.
Paris, 1m39. Il doit avoir 11 ans. Peut-être 12. La peau fine, de couleur foncée. Yeux noirs, cheveux bruns. Quand il lève la tête, on aperçoit sur la trachéatère une suture de 40 mm environ qui semble être la cicatrice d'une plaie faite par un instrument tranchant. Sans doute, ceux qui l'ont abandonné ont-ils voulu l'assassiner.
C'est possible, oui, je le crois aussi.
Mais cette plaie ne peut pas être la cause de son mutisme, alors il ne parle pas.
À mon avis, la seule cause de son mutisme, c'est l'isolement dans lequel il a vécu jusqu'ici.
Alors cette plaie que découvrent ceux qui l'examinent, c'est peut-être le seul indice qui permet au fond de savoir comment, pourquoi, dans quelles circonstances justement cet enfant sauvage, comme on l'appelle encore, il n'a pas le prénom que va lui donner le docteur Itard, a été abandonné en fait.
Alors on n'aura jamais vraiment de preuves formelles, mais on peut penser justement au vu de la cicatrice dont Truffaut parle dans le film, effectivement une cicatrice très importante à la hauteur de la gorge, donc on en a conclu qu'il avait probablement ses parents ou les gens qui en avaient la charge avaient essayé de le supprimer, de le tuer avant de l'abandonner et qu'il avait survécu à cet acte. Et ça prouvait d'autant plus qu'il était un enfant robuste d'ailleurs, s'il avait survécu à ça.
Ce qui est étonnant, c'est le succès, enfin le succès si on peut dire, oui, parce que les gens se précipitent dès son arrivée à la capitale, tout le monde a appris, les journaux d'ailleurs ont écrit des articles, oui. Tout le monde était là à accueillir cet enfant sauvage, à le regarder un peu comme une bête curieuse.
Ah oui, c'était vraiment l'attraction du moment, vraiment, on allait le voir comme une bête de foire, toute la presse en parlait, on a même écrit 3 pièces de théâtre à son sujet, enfin inspirées du personnage. Et ce qui est amusant, c'est que beaucoup de badauds et de curieux pensaient naïvement qu'il allait être complètement, totalement extasié devant la découverte de la capitale, de Paris, de ses monuments. Or, pas du tout. Victor de Laveyran était naturellement complètement indifférent à ce qui l'entourait, puisqu'il ne comprenait absolument pas de quoi il retournait. Quoi.
Alors, comme il ne parle pas, comme il est donc muet, comme il paraît être sourd, on le met dans un institut qui est important, qui avait été créé quelque temps auparavant par l'abbé de l'Épée, qui s'était rendu célèbre en créant cet institut de sourds-muets, puis auquel avait succédé Roch-Ambroise Sicard, qui était le nouveau patron de cet institut, et il y aura plus tard Jean Casparita. Et alors, dans cet endroit, il est gardé par un domestique qui arrondit ses fins de mois en exhibant l'enfant sauvage comme une bête curieuse à tous ceux qui voulaient le voir.
Ah, t'es là ? Allez, viens, t'as de la visite. Parce qu'ils ont, les Parisiens, ils veulent tous te voir. Voilà, présente le sauvage.
Quel âge a-t-il, monsieur, cet enfant ?
Peut-être 10 ans, 12 ans.
Est-ce qu'il parle ?
Non, des grognements, seulement des grognements.
Est-ce qu'il entend ?
Ah, on ne sait pas, monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît, pas les pieds, pas sur le lit.
Et des parents, est-ce qu'il en a ?
On l'a trouvé dans la forêt.
Est-ce qu'on va le baptiser ?
Qu'est-ce qu'il mange ?
Il mange des champignons, des racines, des glands.
Et la viande, qu'est-ce qu'il mange, la viande ?
Jamais de viande, ni de choses sucrées. Mais je me suis pourtant laissé dire qu'il attaquait les animaux.
Bah, ça, c'est possible.
Ah, mais il a pourtant une dentition normale.
Tout ce qu'il y a de normal.
Ce qui peut être dangereux.
Mais monsieur, ça arrive. Ça arrive,
faire attention. Allez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, la visite est terminée. Non, mais vous n'êtes pas tout seul, il y a du monde qui attend dehors.
Encore une fois,
si j'avais su qu'il était aussi bête, j'aurais amené les enfants.
C'est assez pathétique, cette histoire, et notamment son passage à l'Institut des Sourds-Muets. Ça me fait penser un peu à l'histoire, vous savez, de Elephant Man, qui était une histoire réelle qui s'est passée à la fin du 19e siècle en Angleterre, où on le montrait vraiment comme une bête de foin. Il était très malheureux, je crois, dans cet institut, Anne Kaïnec.
Oui, il y a beaucoup de cruauté dans tout ça, parce qu'en fait, ses camarades, donc les jeunes garçons qu'il retrouve à l'Institut des Sourds-Muets, étant donné que Victor n'entre pas vraiment dans une catégorie précise, se moquent de lui, donc il est l'objet de tas de méchanceté, de moquerie, d'ostracisme divers, et il va très 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 mal supporter en fait cette condition, le fait de se retrouver au milieu de ses enfants qui finalement lui ressemblent très très peu, ils n'ont rien à voir puisque eux ils ont été éduqués d'une manière classique, ils sont simplement sourds et muets.
Et donc, c'est ça, c'est le seul point commun qu'ils ont avec ce garçon qu'on appellera, il ne s'appelle pas encore Victor. Alors il y a des gens qui s'intéressent à lui et pas seulement des curieux, cette curiosité malsaine des badauds qui venaient le voir un peu comme une bête de foire. Mais il y a aussi des savants, il y avait une société des observateurs de l'homme. On s'intéressait beaucoup à ce qu'on pouvait découvrir sur l'homme. On est à une époque où les savants sont choyés par le consulat, bientôt par l'Empire, et avec des savants qui sont tous aussi venus voir justement l'enfant sauvage. Hein. Il y avait des savants comme Cuvier, je crois, comme Jussieu, qui viennent tous l'examiner.
Voilà, exactement. Et tous ces gens sont dirigés par un très célèbre docteur, un aliéniste très très illustre de l'époque, le plus illustre, qui s'appelait docteur Pinel, qui est un peu un précurseur de la psychiatrie en fait. Et c'est lui qui va réunir tous ces gens autour de lui pour examiner l'enfant et en faire un descriptif détaillé, savoir mais pourquoi est-il comme ça, quelle est la cause, etc. Et il va décider, après examen approfondi, que cet enfant est simplement un arriéré mental et que s'il a été abandonné, c'est parce qu'il était arriéré. Voilà. Et que, en fait, il est incurable, il n'y a aucun progrès à en attendre, il est incapable de sociabilité ni d'instruction et qu'il restera comme ça jusqu'à la fin de sa vie. C'est un cas incurable et point. Et on n'a pas à y revenir.
Alors c'est un point de vue que ne partage pas du tout le seul finalement de ces savants ou de ces médecins qui se soient intéressés, qui éprouvaient semble-t-il de la compassion pour l'enfant sauvage, Jean-Marc Gasparitard, qui veut l'arracher à l'Institut des Sourds-Muets.
Cet enfant finira par mourir ici.
Ce garçon est inférieur à tous les enfants que nous avons ici.
Il est au-dessous de l'animal. La question n'est pas là. Ou plutôt si même à l'animal on s'occupe de lui, on essaie d'éduquer.
Je ne vois aucune différence apparente entre lui et le malheureux idiot dont je m'occupe tous les jours à Bicêtre.
Pour moi, ce n'est pas un enfant idiot. C'est simplement un enfant qui a eu l'infortune de passer 6, 7, peut-être 8 années dans la forêt, dans une solitude et un isolement absolu.
Vous croyez pouvoir faire quelque chose pour lui ?
Oui, je voudrais tenter de faire son éducation.
Vous voulez l'emmener avec vous ? Chez vous ?
Oui.
Et comment ferez-vous ?
Ma gouvernante, Mme Guérin, s'occupera de lui. J'habite une maison en dehors de Paris, près du village des Batignolles.
Et le docteur Itard va justement amener cet enfant sauvage chez lui. Il a joué un rôle très important dans cette histoire. Pourtant, à l'époque, il n'est pas du tout connu. Il a 26 ans à peine, c'est un gamin, par rapport au professeur Pinel, qui lui était persuadé que l'enfant sauvage était en fait un idiot.
Voilà, c'est un jeune et brillant médecin, donc il a 25 ans, il vient d'être... il est devenu médecin peu de temps auparavant, et lui va prendre totalement le contre-pied de la théorie de l'illustre Pinel, qui est beaucoup plus aguerrie, expérimentée, et il va se poser la question suivante, il va se dire, est-ce que plutôt que d'avoir été abandonné parce qu'il était arriéré, est-ce que cet enfant plutôt n'est pas arriéré parce qu'il avait été abandonné? Il renverse en fait la cause de ce cas. Et il se dit, finalement, est-ce que si j'arrive à développer un peu ses sens et à l'éduquer, est-ce que je ne peux pas en tirer quelque chose, au moins avoir un minimum de sociabilité et d'instruction? Et peut-être, pour lui, tout espoir n'est pas perdu. Il pense que... il pense tout à fait l'inverse. Il se lance un défi à lui-même, parce que sa carrière débute, il se lance un défi à lui-même et à la science, qui est vraiment... qui est un peu culotté, il faut le dire, et très moderne pour l'époque.
Oui, parce que, il va essayer de le rééduquer. C'est vrai que c'est la question, au fond, que l'on se pose. Il est manifestement... Il se comporte vraiment comme un sauvage. Hein.
Absolument.
Crois qu'il était totalement désinhibé. Il se masturbait devant
voilà,
tout le
comme
monde.
Un petit animal.
Complètement.
Oui, oui.
On l'a envoyé quand même... Au début, on a la curiosité pour lui. On l'envoie même voir le ministre de l'Intérieur de l'époque, donc Lucien Bonaparte, qui sera remplacé plus tard par Chaptal. Il se comporte très simplement. Alors, au début, il amuse. Ensuite, il n'intéresse plus grand monde. Et c'est à ce moment-là, justement, que Itard, que Jean-Marc Gaspard Itard le prend, en compagnie d'ailleurs d'une femme qui a elle aussi beaucoup compté et qui était Madame Guérin, celle qui a peut-être inspiré le personnage de Céleste dans votre roman, Anne Kaynec.
Un petit peu, oui, oui. Hein? Quoique le personnage de Madame Guérin existe aussi. Mais en fait, Itard est convaincu que cet enfant, il est comme il est uniquement parce qu'il a eu un manque, c'est pas une déficience cérébrale, mais c'est une déficience affective, culturelle. Et que si l'on lui rend ce qui lui a manqué sur ce plan-là, on peut arriver à quelque chose. Voilà.
Autrement dit, au lieu de se contenter de l'observer comme une espèce de cobaye, là, il cherche à le rééduquer. Alors, commençant par essayer de lui rendre ce qu'il n'a pas et qui permettrait de comprendre beaucoup de choses, de lui rendre la parole.
Attendez, Madame Guérin, vous allez me demander du lait devant lui.
Je voudrais du lait.
Voilà, Madame Guérin, voilà du lait.
Lait.
Bravo!
J'ai l'impression qu'il m'a entendu parler.
Oui, c'est curieux, ce n'est pas la première fois qu'il se retourne quand on parle derrière lui. Oh! Je crois qu'il reconnaît l'endroit d'où vient le son et qu'il réagit surtout au son haut.
S'il n'est pas vraiment sourd, il pourra peut-être réussir à parler.
Peut-être.
Notre pauvre sauvage n'a même pas mon nom.
Et puisqu'il est particulièrement sensible au son haut, on pourrait peut-être lui trouver un nom en haut. Aurélien, Oscar, Nestor...
Victor? Vous avez vu? Il aime ce nom-là.
Tu t'appelleras Victor.
C'est la musique de Vivaldi qui accompagnait ce film, cet excellent film de Truffaut dont on vient encore d'entendre un extrait. Alors l'enfant sauvage, une fois chez le docteur Itard, joué par Truffaut justement, l'enfant sauvage devient Victor de l'Aveyron. Et alors il va s'en occuper pendant des années, Anne Kaynec, ce docteur.
Pendant des années. Et il va commencer à essayer de développer ses sens, parce qu'il considère que le développement des sens peut... améliorer l'intelligence, ou en tout cas le peu d'intelligence qu'il manifeste. Et le premier des sens qu'il va essayer de développer, c'est l'ouïe. Parce qu'il considère que s'il veut apprendre à parler, avoir un langage articulé, il faut vraiment développer son ouïe, qui est non pas inexistant, parce que effectivement le docteur Pinel avait pensé qu'il était sourd, muet, etc., qu'il n'y avait pas grand-chose à en faire. Et Itard pense que ses sens sont seulement engourdis, émoussés, ou en tout cas qu'ils ne sont pas sensibles au même son qu'une personne qui vit en société. Et pour ça, il va faire des expériences, dont une, peut-être je peux en parler, l'expérience du pistolet, et où il, c'est très intéressant, c'est assez instructif, il va mettre devant lui, il va faire retourner, donc l'enfant est de dos, et Itard va prendre un pistolet et va tirer en l'air une balle à blanc, et l'enfant ne se retourne pas, il ne réagit pas, il n'a même pas un soubresaut, donc Itard est très étonné. Et juste après, donc l'enfant est toujours de dos et le docteur Itard prend dans sa main une noix et il casse la coquille, il brise la coquille de la noix et aussitôt l'enfant se retourne et sursaute et se précipite sur la noix. Et la conclusion est assez simple, c'est parce que
la noix lui rappelle son passage dans la forêt.
L'enfant ne réagit que au son qui lui rappelle sa subsistance. C'est-à-dire que bon, le bruit d'un pistolet, pour lui, ça n'évoque en tout cas aucun danger. On peut penser qu'il a entendu des chasseurs dans les forêts, mais qu'il n'a jamais été atteint. Donc pour lui, c'est quelque chose de totalement anodin et qui n'a pas de rapport avec sa nourriture, avec sa survie. Alors que le bruit d'une noix, ou par exemple, il y a aussi l'expérience d'un fruit, qui tombe par terre dans le jardin, aussitôt, ça y est, même s'il est de dos, il l'entend, il se précipite. Donc tout ce qui ne touche pas à sa subsistance, à sa survie, ne l'intéresse absolument pas. Elle l'indiffère totalement.
Dans le film de Truffaut, par exemple, on le voit constamment, pendant que Truffaut essaye de lui apprendre à parler, à réagir, on le voit constamment, justement, regarder dehors, par la fenêtre, la nature. Ah oui. D'ailleurs, il avait, à plusieurs reprises dans le passé, quand on l'avait déjà remarqué dans l'Aveyron, il avait tenté de s'enfuir plusieurs fois, comme s'il ne pouvait pas quitter ce qui était pour lui, là où il avait vécu toutes les premières années de sa vie, c'est-à-dire la forêt.
Ah mais au départ, il ne pense qu'à s'échapper en permanence. Et même plusieurs fois, le docteur Itard l'emmène en promenade, donc il l'emmène dans un fiacre voir des amis dans les environs. Et à chaque fois, il ouvre la porte du fiacre, il s'échappe, Itard est obligé de courir après, Madame Guérin aussi. Il s'échappe, on le retrouve... de nombreuses fois en haut des arbres, chez les voisins, dans les campagnes, etc. Il ne pense qu'à retrouver son milieu naturel. Donc c'est tout à fait parlant.
Il paraît aussi que le docteur Itard essayait de provoquer quelque chose dont il était totalement dépourvu, c'est des émotions.
Oui. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que cet enfant donc ne manifestait aucune émotion positive ou négative, hein, pas de tristesse, pas de joie, pas de rire, pas de satisfaction. Et des principaux exercices qu'il a vraiment fait progresser, il lui a fait apprendre la notion de juste et d'injuste. Et ça, c'était très efficace. C'est-à-dire qu'un jour, après une leçon, il y avait donc un apprentissage, et l'enfant a réussi sa leçon, il avait bien appris, il avait retenu, bon, après beaucoup, beaucoup de déboires, il avait enfin réussi. Et plutôt que de le récompenser, le docteur Itard l'a puni. Donc c'était injuste et l'enfant, pour la première fois, s'est pris de colère et il s'est mis à pleurer. Et après, donc, il a compris peu à peu la notion du juste et de l'injuste. Et ensuite, docteur Itard l'a récompensé, lui a expliqué, parce qu'on sait aussi maintenant que quand Itard lui parlait, au bout d'un certain temps, il comprenait. Alors l'enfant ne parlait pas, mais comprenait certaines choses et au ton de la voix, il comprenait, justement, ça a développé ses émotions. Voilà.
Alors, il essaye de le faire parler. On l'a entendu dire vaguement « lait » ou un « bon
oui. ».
C'est pas à peu près, je crois qu'il n'a jamais prononcé le « haut ». Il réagissait au son « haut », mais il ne l'a jamais prononcé. Il a jamais parlé, en fait?
Non, il n'a jamais vraiment parlé. Le son est resté très guttural. Il a réussi à prononcer quelques consonnes, un « l » un peu mouillé. Par exemple, pour « lait », il disait « i ». Voilà. Il imitait aussi Madame Guérin, quand Madame Guérin disait « mon Dieu, mon Dieu ». Il l'imitait, il disait « dié, dié », voilà. Et puis la lettre D, la lettre B, mais ça n'est jamais allé plus loin parce qu'il était trop tard. L'âge était passé, l'âge de l'apprentissage était passé.
Est-ce qu'on ne dirait pas, Anne Kaïnec, aujourd'hui, qu'il était autiste?
Peut-être. Alors, est-ce que l'autisme est quelque chose qui est inné ou est-ce que ça...
Oui, mais indépendamment de ça, au fond, c'était
oui,
peut-être
ça ressemble
ce dont il
beaucoup.
Souffrait, puisqu'évidemment, on ne connaissait pas cette
ça
maladie
y ressemble beaucoup,
à l'époque. Alors, cela dit, quand même, on doute de l'efficacité de la méthode, du docteur Itard, au point d'ailleurs que l'administration envisageait d'arrêter de payer Madame Guérin, qui était payée par l'administration, et puis finalement, elle décide de continuer à lui verser une somme.
Les soins que vous avez pris de l'enfant connu sous le nom de Sauvage de l'Aveyron, les changements qui sont survenus, ceux qu'on peut espérer, l'intérêt qu'inspire un abandon aussi absolu et une destinée aussi bizarre, tout recommande ce jeune homme à l'attention des savants et à la protection du gouvernement. C'est pourquoi son Excellence décide de renouveler la pension annuelle de 150 francs allouée à Madame Guérin pour les soins et peines prodigués à votre jeune élève.
Madame Guérin, il vous arrive une bonne nouvelle.
Je suis content, Victor. Je suis revenu chez toi. Tu comprends? Tu es chez toi. Tu n'es plus un sauvage, même si tu n'es pas encore un homme. Victor, tu es un jeune homme extraordinaire, un jeune homme aux grandes espérances. Madame Guérin, emmenez-le se reposer.
Alors ça, c'est tout à fait la fin du film de Truffaut qui s'arrête en réalité bien avant la fin de l'histoire de Victor, parce qu'en réalité, dans la réalité, Anne Kaïnec, le docteur Itard s'est détaché un peu, a fini par perdre l'espoir de pouvoir ramener cet enfant à ce qu'on appelle la civilisation, et il a été un peu abandonné, en tout cas par le docteur Itard.
Oui, c'est vrai que la fin de l'histoire de Victor est un peu triste, parce que après avoir fait vraiment, il a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, le docteur Itard, sur ce cas de Victor. Il a fini, on peut s'en étonner, parce qu'au départ, il était vraiment, vraiment plein d'enthousiasme, et ça prouve que le cas était vraiment très difficile à traiter. Il a fini par un peu baisser les bras. Il y a un côté décevant, d'ailleurs, dans la fin de cette histoire. Il a baissé les bras, il s'est un peu découragé. Et au point même, on dit qu'il s'est même quelquefois posé la question de savoir s'il n'aurait pas plutôt dû laisser Victor dans sa forêt, ce qui est tout à fait... c'est une grande tristesse, en fait, finalement.
Et alors, c'est triste parce que cet enfant va rester... Il finit par ne plus être un enfant. Il va rester 17 ans auprès de Madame Guérin, qui, elle, reste avec lui, rue de la Faisanderie. C'est juste à côté, d'ailleurs, de la maison des Hugo, je crois qu'ils l'ont croiser à un moment donné.
Oui.
Et il est mort en 1928. Si on estime qu'il avait une dizaine d'années quand on l'a découvert, il avait donc une quarantaine d'années
il avait 38
à sa mort.
Ans, pense,
et on ne sait pas de quoi il est mort, d'ailleurs.
Non, probablement... on pense que peut-être un peu d'inanition, enfin de manque de développement. On ne sait pas grand-chose sur sa mort, mais effectivement, il est mort, il avait à peu près 38 ans environ.
Au fond, on pourrait dire que c'est un échec. Est-ce que le travail d'Itard, est-ce que la nature l'a emporté sur la culture, en fait, si on veut philosopher un petit peu. Mais est-ce qu'il a apporté quelque chose à la science, alors que tant de scientifiques se sont penchés sur son cas?
Oui, on peut penser que c'est un semi-échec. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt une semi-réussite, dans la mesure où il a quand même fait avancer considérablement la science, puisque le docteur Itard avait quand même des méthodes très modernes. C'était vraiment un vrai défi qui s'était lancé à l'époque. Et à la suite de cette expérience, pour la première fois, on a un peu cessé de voir une dualité entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'on a vraiment pensé qu'en éduquant les sens, l'esprit, on pouvait faire évoluer un être humain. Et puis surtout, on a réussi à conclure que l'homme est un être qui se construit. C'est un homme qui est sa propre histoire, qui est sa propre culture, et que rien n'est inné, contrairement à ce qu'avait, aux théories qu'avait émises Jean-Jacques Rousseau quelques dizaines d'années auparavant, où on disait que le bon sauvage est naturellement bon, naturellement généreux, bipède, etc. L'homme, en fait, il se fait par l'imitation. Il se fait par son entourage et par la stimulation du milieu.
Il y a eu d'autres cas que Victor. On a découvert en janvier, je crois, dans la forêt du Cambodge, en janvier dernier, un enfant. Il y a eu le fameux cas de Caspar Hauser aussi.
Oui. Mais Caspar Hauser, c'était un petit peu différent. Donc c'était... Curieusement, Caspar Hauser, il est apparu en 1828, quelques semaines après la mort de Victor. Bon, c'est un drôle de hasard. Mais Caspar Hauser était un enfant qui avait été séquestré dans une cave. Donc le cas était un petit peu différent et on pense que c'était probablement un enfant illégitime. Mais c'est un cas aussi intéressant et qui a été également filmé, mais par Werner Herzog.
Puis il y a eu des enfants loups en Inde. Enfin, il y en a eu quand même pas mal de cas.
Même au XXe siècle.
Dont celui de Victor, donc, qui apparaît dans votre roman, Anne Kaïnec, Céleste ou les mystères de l'an 9. Céleste étant celle qui était chargée dans votre roman, c'est un travail d'imagination, de garder Victor. Un livre publié aux éditions Plon. À lire également Victor de l'Aveyron, dernier enfant sauvage. Premier enfant fou de Thierry Gineste chez Hachette Pluriel et Les enfants sauvages de Lucien Maison aux éditions 10-18. Vous avez pu entendre des extraits du film L'enfant sauvage de et avec François Truffaut dans le rôle du docteur Itard, disponible en DVD chez MGM. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Antoine Viossa et Ludovic Asselot. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.